métaphysique par le père Philippe, le 16 mars 1988.
Contemplez pas trop la quantité. Posez-vous la question si la quantité, on peut la contempler. Ou si la quantité, c'est le domaine propre de l'imaginaire. Toutes vos distractions pendant l'oraison sont d'ordre quantitatif. C'est vrai, ça. Vos rêves, vos cauchemars, domaine quantitatif. C'est par là qu'on comprend un peu ce que c'est que la quantité, vous voyez, dans les rêves. Surtout quand on est fatigué et que les rêves se transforment en cauchemars. Parce que c'est un peu le signe de la fatigue, le cauchemar. De la tension. Quand on est très détendu, très paisible, on dort comme un enfant. Tandis qu'au contraire, le cauchemar, signe de la lutte. Et alors, la quantité est comme victorieuse de la qualité. Il y a des observations des psychologues là-dessus qui sont très intéressantes. Et qui nous aide à comprendre ce que c'est que le domaine de la quantité et de l'imaginaire. Puisque la psychologie, elle est très forte dans l'imaginaire. Et Sartre a dit des choses intéressantes sur l'imaginaire. Dans le domaine de l'image, de l'icône, fruit d'imaginaire, les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres. Il y a un ordre inverse, vous voyez. C'est très curieux, ça. Je donne ça, c'est à réfléchir, puisque, de fait, on n'aura pas le temps de terminer la quantité, et il y aura le pèlerinage à Lourdes, la semaine sainte, les vacances de Pâques, puis on prendra la quantité après, là. Pas rester trop dans le domaine de la quantité, n'est-ce pas, pendant tout ce temps-là. La résurrection ne se fait pas dans le domaine de la quantité. Je ne sais pas ce que deviendra dans les corps glorieux le domaine de la quantité. C'est très, très curieux. Elle existera encore. Ça me semble très difficile de pulvériser la quantité. Alors que c'est un domaine qui se pulvérise facilement. C'est ça qui se pulvérise. Et c'est pas la qualité. C'est pas la quantité, vous êtes gros, petit, dense, maigre. C'est le domaine de la quantité, ça. Et donc, d'une certaine manière, les transformations les plus extraordinaires, c'est le domaine de la quantité qui les permettent. Un corps physique et un corps glorieux. Justement, c'est difficile, hein, d'imaginer ce qu'est un corps glorieux. Je crois qu'un corps glorieux est encore quantitatif. Mais une quantité glorieuse, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on voit combien c'est curieux, le domaine de la quantité. Il faut se poser ces questions-là pour montrer que la quantité, c'est un domaine où l'imagination flotte. Où l'imagination s'en donne à cœur joie. S'il n'y avait pas la quantité, l'imaginaire. Alors c'est ce domaine extrêmement curieux, intermédiaire, entre la qualité et la substance. Vieille garde de triage. Tout passe par la quantité. Et normalement, rien ne reste dans la quantité. C'est fluxus. Alors, dans la réalité, dans nos sensations, dans notre jugement d'existence, ceci existe. Quand vous voyez un chef-d'œuvre d'ordre proprement architectural, vous avez les sensibles propres, donc les qualités, qualités sensibles, que vous saisissez en premier lieu. Les sensibles communs, je donne ça exprès parce que c'est une distinction qui est tellement importante et qui a disparu. Qui a disparu. Les marxistes la reprennent un tout petit peu. C'est très curieux. Par un souci de réalisme. Les sensibles communs sont le support des sensibles propres. Oui, puisque les sensibles communs, c'est la grandeur, le nombre. Donc normalement, les sensibles communs sont le support des qualités sensibles qui, elles, sont indivisibles. Et les sensibles communs sont mesurables. Vous mesurez vos sensations par le point de vue sensible commun. Vous pouvez voir le champ d'extension, la manière dont vous entendez plus et moins les sons très aigus, les sons très graves. Tout ça, ça peut se mesurer. Mais la qualité sensible propre ne se mesure pas. C'est indivisible. Et il y a un ordre entre les deux. Et vous avez la substance, ou la nature, si vous voulez. Un exemple très simple. Hein. Une feuille de chêne. Vous saisissez les sensibles propres, les sensibles communs. Et parmi les sensibles communs, celui qui est le plus proche du sensible propre, c'est la figura. Hein. N'oubliez pas. Je dis la figura en latin, c'est plus facile. C'est la physionomie, c'est le caractère, c'est... Et puis vous avez la nature. Et en regardant la qualité sensible et le sensible commun, vous dites, c'est une feuille de chêne. Puis quelquefois, vous hésitez. Parce que c'est du... Oui, la feuille de chêne, c'est la nature. Vous êtes passé par les sensibles propres, les sensibles communs et la nature. Faites ça très simplement et très vite, petite induction. Parce que la nature, vous ne la voyez pas. C'est votre intelligence qui dit feuille de chêne. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez pas touché la nature chêne. Mais... vous voyez immédiatement les sensibles propres, les sensibles communs, vous les mesurez, puisque vous voyez une feuille de chêne énorme, qui a exactement la couleur habituelle, puis serait énorme. Qu'est-ce que c'est ici? On doit être en Afrique. Puisqu'avant, c'est ce qui m'a frappé, moi, quand je suis passé en Afrique, c'est que le rapport des sensibles propres et des sensibles communs n'est pas le même qu'en Europe. C'est vrai. Vous regardez des quantités de petits animaux, ils ont une dimension beaucoup plus grande. Pas la même dimension. Et les qualités sont les mêmes, mais la proportion n'est pas la même. L'harmonie n'est pas la même. Et alors, vous êtes un peu dépaysé. C'est ça, dépaysé. C'est quand, de fait, subitement, le rapport entre les sensibles propres et les sensibles communs sont tout à fait différents. Vous n'avez qu'à faire ça pour le théâtre. Faites ça, vous voyez tout de suite, vous dépaysez complètement. Parce que l'harmonie est différente. Alors vous ne savez plus. Vous dites, oui, c'est toute l'apparence d'une feuille de chêne. Mais quand même, ça a une taille extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment une feuille de chêne? Alors vous rencontrez quelqu'un habitué au pays, dites qu'est-ce que c'est? Puis elle vous donne un autre nom, évidemment. Et vous avez fait l'analogie avec la feuille de chêne par le rapport. Vous voyez, c'est comme ça que se fait nos connaissances habituelles, hein? Vous avez trois moments. Toujours. Et c'est ça qui fait votre milieu habituel, votre culture. Alors qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Quand les psychanalystes analysent les rêves, quand ils analysent les dessins instinctifs des enfants ou de ceux qui sont analysés. Parce qu'en France, ça se fait, on en fait l'analyse en faisant des graffitis et des petits dessins, et on arrive à faire des choses assez étonnantes. Donc, ici, je dirais la perception normale, habituelle. Puis ici, vous êtes dans le domaine du rêve. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une inversion. Les sensibles communs deviennent premiers. Les sensibles propres peuvent quelquefois disparaître. Paraît-il. Ça, c'est l'interprétation, hein, psychanalytique. Donc, une interprétation qui n'est pas philosophique, mais qui est intéressante. Paraît-il que quand vous êtes très très fatigué, un peu malade, sur les bords, oui, c'est-à-dire que vous glissez facilement, que vous tombez facilement dans l'abîme, hein, vous perdez un peu pied, si vous voulez. Les sensibles propres sont tellement dilués qu'ils n'apparaissent plus. Quand ça va mieux, les sensibles propres réapparaissent. Curieux. Mais ce qui est sûr, alors, c'est quand vous essayez d'étudier l'image des rêves, ça vous pouvez le faire, vous-même. Les sensibles communs, c'est toujours la première chose qui apparaît. Parce que vous êtes dans le domaine de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est le premier lieu des synthèses. Le premier lieu des synthèses. Vos synthèses sont dans l'imagination. C'est pour ça qu'on aime le rêve, parce que vous faites des synthèses, vous êtes libre. Vous voyez, la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, elle est d'abord du côté imaginaire. Kant a très bien saisi ça. C'est du côté de l'image qu'il y a une subjectivité transcendantale. Vous faites des combinaisons les plus diverses, absolument comme vous voulez. Tandis que les sensibles propres, vous n'en faites pas des synthèses comme vous voulez. Pas du tout. La montagne d'or des scolastiques. Puisque les scolastiques prennent tout le temps la montagne d'or. Aujourd'hui, on prendrait l'homme-poisson, puisque ça revient à ça. Est-ce que c'est imaginé ou est-ce que c'est réel? C'est la recherche de certains d'aujourd'hui, dans toutes les combinaisons qu'ils peuvent faire. Et ils font les expériences. Est-ce que l'homme-poisson, c'est purement imaginaire? Vous savez, l'homme a la tête d'homme avec une queue à la fin. Quoi. Une queue de poisson, tu vois. Alors est-ce que ça, c'est cette espèce de... Est-ce que c'est purement imaginaire ou est-ce que c'est réel? L'imagination fait des choses fantastiques. Vous êtes dans le domaine des sensibles communs. Regardez la caricature, hein. Réfléchissez sur la caricature. Qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous une caricature? Vous la faites artistiquement, alors génialement, sous l'inspiration, vous n'y réfléchissez pas. Et après, vous pouvez l'analyser. C'est le rapport des sensibles communs, des sensibles propres et des sensibles communs, qui change tout. Vous avez fait le nez de quelqu'un qui prend toute la physionomie. Puis des petits yeux de chauve-souris. C'est renversé. Quelque chose de tout à fait particulier qui fait que, à ce moment-là, le rapport est tout à fait changé. Ce qui se passe dans l'image, les sensibles communs passent devant, les sensibles propres. Et là, vous n'avez plus la nature. dans le domaine de l'image. Vous voyez cette inversion? Et cette inversion, c'est curieux, pourquoi cette inversion? Pourquoi, de fait, quand je passe de la sensation au domaine de l'imagination, tout est inversé par rapport au sensible propre et sensible commun? Ce qui fait comprendre comment on peut dérailler. Ouais. Comment se fait-il qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui commence à dérailler? Pas le souhaiter, mais quand ça arrive, on essaie de comprendre. Hein. La vie commune est un laboratoire. Alors, c'est le tétard qui commence à changer. Et vous avez le changement du sensible commun qui passe devant, qui prend tout. Et le sensible propre. C'est le sensible propre, nous l'avions déjà vu, qui nous met en contact immédiat avec ceci et jugement d'existence. Les sensibles communs, non, sont subjectifs, connaissant la subjectivité transcendantale. Elle commence avec l'imaginaire. L'imaginaire se forme son propre objet par la synthèse des sensibles communs. Et c'est l'imaginaire qui se forme à lui-même, son propre objet. Oui, je suis source de l'image. L'image, elle n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, il y a la réalité. Il n'y a pas l'image. L'image, c'est moi qui l'a fait. Et quelquefois, mon monde d'image est tellement puissant que je crois que c'est la réalité. Et c'est à ce moment-là, vous dites, mais il n'y a plus contact avec le réel. Il vit dans son monde. Quand vous dites, il vit dans son monde, il vit dans le monde imaginaire. Et l'imaginaire est tellement fort, en dehors de ses sandales, hein, complètement. C'est plus très bien. Il est dans son domaine imaginaire. Parce que c'est les sensibles communs qui l'ont emporté. C'est les sensibles communs qui permettent cette sorte d'autonomie de l'image. C'est pas les sensibles propres. Mais comme c'est curieux, et comme la subjectivité transcendantale commence avec le domaine de l'image. La subjectivité transcendantale, c'est le domaine de l'image. Alors vous commencez à comprendre comment, si vous mettez entre parenthèses, il faut mettre ça en rouge, si vous mettez entre parenthèses les sensibles propres, ce que fait Descartes, et que votre monde commence, votre philosophie commence avec les sensibles communs, le partage des eaux entre le réel et l'imaginaire, ça n'est plus très bien. Alors c'est ça Descartes. Et depuis Descartes, la philosophie occidentale a déraillé. Puisque les sensibles communs, c'est les seules choses qui sont objectives. C'est les seules choses mesurables. Égal objectif. Donc le monde réel commence avec les sensibles communs. C'est en même temps le monde des images. Le jugement d'existence disparaît et vous êtes dans le domaine des images, dans le domaine des idées. Et entre les idées et les images, vous voyez plus. Mais c'est capital de comprendre ça pour saisir l'emprise de la quantité sur le domaine imaginatif. Comment la quantité permet la synthèse? Vous en ajoutez, vous savez, c'est le jeu de cubes, vous jouez avec le gosse qui joue avec des cubes. Il en ajoute, il en a des quantités, une pyramide. Et plus elle s'élève, on fait la tour de Montmartre. On en ajoute. Plus plus vous avez des taches, vous savez. Vous savez pas pourquoi, mais c'est là beaucoup. C'est la qualité. Regardez comme c'est haut. Vous voyez cet ascenseur, tant d'étages. Oui. Quel avantage ça a? Un de plus. C'est pas de la qualité, c'est quantitatif. Mais comme il n'y a plus le contact avec le réel, c'est le domaine quantitatif qui mesure tout. Je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre ce passage. Vous voyez, du contact avec la réalité, ceci est... Là, je suis en face de la res. Et ici, je suis dans le domaine de l'image. Et je reste enfermé dans l'image. Et je me poserai la question, si, est-ce que l'image correspond à la réalité? La grosse question sera ça. Est-ce que l'idée que j'ai correspond avec la réalité? Oui, mais c'est le dérapage. Le premier moment de dérapage, c'est ici, c'est dans l'image, la composition, la structure de l'image. Les sensibles communs passent devant les sensibles propres. Et vous avez donc la possibilité de construire votre image comme vous voulez. D'où cette supériorité, subjectivité transcendantale, cette supériorité de l'imaginaire sur les sensations. Dans les sensations... Je suis en contact avec le réel qui mesure ma connaissance. De l'autre côté, j'ai à moi-même ma propre mesure. D'où subjectivité transcendantale dans la connaissance. Alors vous voyez comment, ça qui me semble très intéressant à voir, comment la connaissance de la quantité, parce que c'est, on va y prendre, je fais ici un petit nota bene hein, pour vous montrer l'intérêt d'étude de la quantité. C'est très intéressant de savoir ce qu'Aristote a dit, mais quel est l'intérêt philosophique? C'est que par la quantité, vous pourrez donner la structure du monde imaginaire. La structure du monde imaginaire est quantitative. La qualité vous donne la structure du réel. Et la quantité donne la structure du monde imaginaire. Alors, évidemment, normalement, le réel implique la quantité, c'est sûr. La qualité physique sensible ne se balade pas toute seule. Elle est toujours liée à la quantité. Elle est toujours modifiée par la quantité. Vous savez très bien, quoi, il suffit d'être un tout petit peu astucieux pour savoir, c'est pas la même chose du tout d'avoir une grande surface blanche. Et dans cette surface blanche, vous mettez un petit point rouge. Ou avoir une grande surface rouge et un petit point blanc. Il y a rouge et blanc des deux côtés. La seule différence, c'est la quantité. C'est quand même assez différent comme impression. Donc la quantité joue un rôle énorme. C'est mon conditionnement. Tout mon conditionnement est quantitatif. Ah, si je ne vois plus que le conditionnement, je reste dans le domaine quantitatif. Je n'émerge jamais. Et c'est très vrai que le domaine du conditionnement joue dans l'ordre pratique un rôle extrêmement important. Alors, si vous poussez un tout petit peu plus, quand vous êtes dans un monde scientifique, où la connaissance de la mensuration l'emporte. Quand vous êtes dans un domaine technique, où le domaine de la mensuration l'emporte, qu'est-ce qu'il y a? Vous construisez progressivement, par la science, donc c'est très sérieux, une image du monde, une représentation du monde. Vous arrivez à dire ce qu'une psychanalyste très intelligente m'avait dit. Pour moi, le calcul est beaucoup plus certain que de toucher cette réalité. Votre certitude sera uniquement ce qui est mesuré. Et vous arrivez à vous représenter un monde de la mensuration. Et quand vous vous demandez, plan critique, que correspondent tous les calculs que vous faites en science? C'est intéressant quand même, de temps en temps se réveiller. Vous enfermez dans un monde de mesures. Mais la réalité, quand vous pouvez la vérifier, ça va très bien. Et quand vous ne pouvez pas la vérifier, vous oubliez au bout d'un certain temps que tous vos calculs, oui, c'est très bien, mais ce n'est pas le réel. C'est votre connu. C'est le domaine du connu, ou le domaine de l'imagination et de la subjectivité transcendantale prennent très grande importance. Oui, sur les calculs que vous faites, par exemple, sur l'ancienneté du monde, vous ne pouvez pas vérifier. Vous n'êtes pas né avec le monde. Parce que vous seriez plus que Mathusalem. On vous garderait dans une petite cage en disant « Il est né en même temps que le monde. Faites attention. » Ça ne tient plus beaucoup, mais ça tient encore. C'est très vieux arbres comme ça qu'on maintient dans des cages. Il n'y a plus rien, plus qu'un tout petit bout de sève. Mais ça ne fait rien. Il est très très vieux. Dans les calculs que vous faites, ce sont des calculs que vous faites par la mesure. Alors, l'instant, quel est le point de vue des sensibles propres dans votre connaissance du temps? C'est l'instant présent. Le passé, vous ne l'atteignez plus. Le futur, vous ne l'avez pas encore atteint. Vous êtes donc dans la mensuration. Qu'est-ce que ça correspond pour la réalité? Ah, ça vous donne un peu le vertige quand vous faites ça. Mais c'est bon ce vertige, parce que c'est l'infini. Quantitatif, imaginaire. Vous ne pouvez pas vérifier. Le jugement d'existence est dilué dans les sensibles communs. Mais c'est ça qui est très intéressant dans le domaine de la quantité. C'est que par le domaine de la quantité, vous voyez l'importance de la subjectivité transcendantale. Premier moment de la synthèse dialectique. Premier moment de la domination, c'est par l'imaginaire. Alors réfléchissez là-dessus. Ça vaut la peine. C'est extrêmement intéressant, ça. Faut pas le faire trop. Mais quand même, quoi, vos rêves. Domaine sensible commun, sensible propre. Sans faire à soi-même son auto-psychanalyse, il faut mieux pas, il faut quand même un tout petit peu comprendre le maniement. Voilà un tout petit peu ce que ça représente. Le vécu passé. Qu'est-ce que c'est que le vécu passé? Comment pouvez-vous rejoindre dans le jugement d'existence par le vécu passé. Ou le futurible. Vous êtes dans un domaine où l'imaginaire joue un rôle extraordinaire. Oh, il y a un contact avec le réel au point de départ, comme les mathématiques, ou un petit contact avec le réel. On a dépassé ça. Et revenir aux mathématiques, c'est revenir aux petits cailloux. 1, 2, 3... Mais il faut venir un caillou, deux cailloux, trois cailloux. J'ai dépassé ça tout de suite. Je suis dans l'arithmétique quand même. Le caillou tombe. Le caillou, c'est le jugement d'existence. Le caillou tombe et vous avez un. Un. Vous situez n'importe où. Hein. Deux. Trois. Vous commencez à imaginer. les nombres, domaine de l'image, domaine quantitatif. Vous êtes libre, tous les sensibles propres ont disparu. Tant que le petit caillou est là, il y a un sensible propre. Les mathématiques mettent entre parenthèses les sensibles propres pour laisser libre cours au domaine du divisible, quantitatif. Continuons la petite topique historique. Hein. Mais ça, c'est pour vous montrer l'intérêt. Ce domaine de la quantité, on entre dans un domaine qui n'est pas la véritable intériorité. C'est le domaine du labyrinthe imaginaire. C'est le domaine du métro intérieur. Chacun d'entre nous, avons quelques lignes de métro intérieures. Et avec ces stations. C'est vrai, c'est pas le réel. Il y a un petit escalier qui va faire rejoindre le réel. Ça. Vous êtes dans le domaine. Ou le domaine des égouts dans Paris. Je connais l'ingénieur des égouts. Je voulais faire visiter Paris par les égouts. Je le ferai un jour, du reste, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Très intéressant de descendre dans les égouts. D'habitude, on marche au-dessus, on ne s'aperçoit pas tout ce qu'il y a dessus. Mais on ne touche pas le réel, on est dans les égouts. Parce qu'il y a des imaginations d'égouts, il y a des imaginations de métro, il y a des imaginations, vous voyez bien, ça dépend. Et c'est vrai que les imaginations d'égouts, pas très drôles. Il y a des gens qui ont un imaginaire d'égouts. Quand ça passe à la peinture, ça tient. C'est quelque chose d'affolant. Parce qu'il y a, il y a un art imaginatif. Hein. Il y a un art imaginatif, sensible, propre, complètement éloigné. Et vous donnez dans ce domaine, et vous représentez le domaine des égouts. Alors vous ne mettez pas en dessous mes égouts intérieurs. Mais on a envie de mettre. Alors, nous étions arrivés à regarder chez Aristote ce lieu premier de la quantité au niveau catégorial. Il y a une quantité catégoriale. Et la quantité catégoriale, vous la trouvez dans les catégories où vous trouvez tout de suite ce domaine de la quantité continue et de la quantité discrète. Vous avez un autre domaine. Je prends deux domaines. Hein, et j'aime bien, dans Aristote, toujours bien distinguer ces deux domaines. Le domaine des catégories. Tout le monde doit connaître les catégories d'Aristote. Et le domaine des prédicaments, c'est le même mot. On passe du grec au latin. Au domaine, dans la philosophie première d'Aristote, le livre Delta. Le livre Delta, c'est un petit livre très intéressant. C'est le petit dictionnaire d'Aristote. Dictionnaire des mots. C'est quand même intéressant, parce qu'en philosophie, il y a des mots qui ont une signification particulière. Alors vous regardez ce petit livre Delta de la philosophie première. Vous avez au chapitre Delta 7. Et dans le livre Delta 7, vous avez qu'est-ce que c'est la quantité ? Dans la philosophie première, la quantité est présentée comme une des acceptions de ce qui est. Une acception, c'est une des modalités de l'être. L'être se prend en de multiples acceptions qui correspondent aux divers types de catégories. L'être se dit de multiples manières. Legetai polakos. Le legetai polakos, il faut se familiariser un petit peu. L'être se dit de multiples manières. Pour montrer tout de suite que lorsque vous êtes dans le domaine ce qui est, se dit, se dit. Et se dit, c'est les catégories, se dit de diverses manières. Vous avez la qualité, vous avez la quantité, vous avez la substance. Vous avez la qualité, vous avez les sensibles communs, quantitatifs, et vous avez la substance. Vous avez la relation. L'être se dit de diverses manières. À chaque catégorie correspond un des sens de l'être. Aristote, après l'ousia et la qualité, nomme la quantité. La quantité est considérée comme distincte de la substance. Mais alors le problème de la multiplicité des substances se pose avec d'autant plus de force. La substance est quelque chose d'indivisible. Et cet indivisible se multiplie. Nous avons tous en nous quelque chose d'indivisible, dans notre être substantiel. Et nous sommes nombreux. Vous voyez le problème tout de suite de l'indivisible et du multiple. Le grand problème des néoplatoniciens. L'un est multiple. N'oublions pas que ce jugement très significatif d'Aristote sur la doctrine des platoniciens, qui se trouvaient fort embarrassés pour expliquer comment il peut y avoir plusieurs substances en acte et non une seule. C'est le problème de Spinoza. La substance demande d'être unique, puisqu'elle est indivisible. Donc si la substance existe, elle est unique. Comment se fait-il que l'être se multiplie ? Vous constatez la multiplicité. Vous n'êtes pas votre voisin, grâce à Dieu. C'est vrai. Vous rendez gloire à Dieu de ne pas être votre voisin. C'est vrai, la prière. Ce n'est qui ? Je ne suis pas comme mon voisin. Qui est mon pauvre voisin ? Moi, au moins, je suis différent. Et la diversité de l'être. Moi, tout de suite. Alors, Aristote dit ceci. À moins d'identifier aussi l'ousia et la quantité, on ne peut pas dire que les platoniciens aient montré comment et pourquoi il y a une multiplicité d'êtres. Ils ont seulement montré comment. Alors soulignez la différence du pourquoi et du comment. Ils ont seulement montré comment il y a multiplicité de quantités. Tout nombre, en effet, signifie quelques quantités. Et l'unité elle-même est une quantité, à moins de la considérer comme mesure, en ce qu'elle est indivisible dans l'ordre de la quantité. Aristote, tout de suite, touche un problème extrêmement intéressant, et qui vient d'un domaine de la quantité, vous voyez. Donc, il montre que le grand problème des platoniciens et des néo-platoniciens, vous voyez, c'est intéressant que c'est tout de suite le problème de la quantité qui va régler ça. C'est le problème de l'un et du multiple. C'est vrai. Le grand problème. Et c'est premier pour Platon et les néoplatoniciens. L'un est indivisible. Et le multiple, il implique la division. Donc l'un s'oppose au multiple. Entre l'un et le multiple, il y a une opposition. Vous ne pouvez pas être en même temps un multiple sous le même rapport. L'un relève de la substance, l'ousia. Donc la substance. Et le multiple relève de la quantité. On peut tout de suite voir ça. Parce qu'il y a une multiplicité, il faut qu'on puisse en ajouter pour que ce soit multiple. Une pierre, deux pierres, trois pierres. S'il n'y avait pas la quantité, il n'y aurait pas d'extériorité. Comment peut-on ajouter quelque chose à quelque chose d'autre? Comment ça se fait? Comment pouvez-vous augmenter d'un kilo pendant le carême? Comment ça peut se faire, ça? Comment ça peut se faire? Comment pouvez-vous augmenter d'un kilo? C'est pas votre qualité. C'est pas votre intelligence. Il y a à l'intérieur de l'être, parce que c'est réel. Quand vous vous pesez avant le carême et après le carême, il y a une photographie en même temps avant et après, et on dit, voilà, oui, comment on passe le carême, on a grossi d'un kilo, c'est extraordinaire. Ce carême bénéfique, on a grossi d'un kilo, en mangeant moins, c'est extraordinaire, mais en assimilant mieux. Alors, vous voyez, alors, il fait que vous avez expliqué pourquoi vous avez grossi d'un kilo. C'est la quantité qui explique qu'à l'intérieur de l'être, il y a un phénomène d'extension. L'extension, l'être qui s'étend, permet qu'on ajoute. Si je demeure dans l'ousia, je suis dans l'indivisible. Alors, vous ne pouvez rien ajouter. Vous savez bien, c'était ce petit gosse. Je vous ai déjà donné cet exemple. Ce petit gosse qui revient de première leçon de mathématiques, qui dit, maman, le maître, il est bête. Il a dit 1 et 1, 2. Or, 1 et 1, 1. Or, il a dit 2. Sa mère ne sait pas quoi répondre. Et c'est une question extrêmement. C'est ça, c'est le problème de l'un du multiple. Comment se fait-il que l'un s'ajoute à l'un? Ça ne s'ajoute pas. Alors le gosse prend son bain. La mère jette une balle. Oui, c'est le réalisme du bain et de l'eau, vous voyez. Alors la mère jette une balle et une seconde balle. Dit, tu vois, une balle plus une balle, ça fait deux balles. Le gosse répond, mais. Le maître n'a pas dit ça. S'il avait dit une balle, plus une balle, ça fait deux balles, j'aurais dit oui. Mais il a dit un et un. Ah, ça ne va plus du tout. Alors la mère ne savait pas, alors elle va voir le maître. Et le maître dit, ah, votre gosse, c'est un imbécile, il ne comprend rien en mathématiques. Il ne comprend rien aux mathématiques. Quand je lui dis 1 et 1, 2, il s'oppose, vous voyez, cette espèce d'obstacle. Alors que c'est si simple. 1 et 1, 2, quoi. Comment voulez-vous qu'il avance après? Parce qu'il refuse 1 et 1, 2. C'est très profond, ce problème. Quand c'était dans une conférence, je la connaissais, c'était une mère de famille merveilleuse. Alors, je lui ai dit, vous savez, c'est très profond la question de notre gosse. Alors elle m'a regardé, j'ai toujours cru que c'était très intelligent. Merveilleux. C'est vrai que c'est très intelligent, c'est le problème de l'un du multiple. Et le problème de l'un du multiple, vous voyez, c'est de voir que l'un est lié à la substance. Mais dans le multiple, il y a aussi l'un. Alors, ce terrible équivoque, vous avez un dans la quantité et vous avez un dans l'ordre de l'être. Oh, et c'est le même mot. Tous les équivoques sont là. Vous avez l'un quantitatif. L'un quantitatif s'additionne en raison de la quantité. La quantité, c'est le domaine de l'addition. C'est comme ça qu'on fait fortune. On ne fait jamais fortune avec la qualité. Tandis qu'on fait fortune, c'est le domaine de l'avoir. La qualité, on ne l'a jamais. On est toujours possédé par la qualité. C'est le domaine de l'avoir. Vous avez 1 kilo de plus. On dit bien, vous avez 1 kilo de plus. Votre quantité, c'est pour votre avoir. C'est pas pour qu'on contente votre quantité. Non, non. C'est vous, j'ai 1 kilo de plus. La quantité s'additionne. Permet l'addition et permet aussi la soustraction. Ça permet qu'on additionne et ça permet au voleur d'en prendre un peu plus. Donc ça permet la soustraction. Ça permet addition et soustraction. Dans le domaine de la quantité, vous avez 1. Et dans le domaine de la substance, vous avez 1. Et voyez, cet 1 de la substance et cet 1 de la quantité, c'est équivoque. Et saint Thomas nous dit, Aristote l'a dit avant saint Thomas. Et saint Thomas a répété, les platoniciens ont confondu.